Bienvenue, vous écoutez Droit vers l'Europe, une série de podcasts proposés par le ministère de la Justice pour aider les professionnels du droit à appliquer la législation de l'Union européenne. En compagnie d'un expert, nous revenons sur une procédure en matière familiale, civile et commerciale. Il partage avec nous son expérience pour une meilleure application des règlements européens. L'épisode 2 est consacré aux règles de compétence du règlement Bruxelles 1 bis. Vincent Vigneault, vous êtes conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation. Cette chambre traite des litiges de droit international privé. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le champ d'application du règlement Bruxelles 1 bis ?
Oui, tout à fait. Alors, les règles générales de compétence juridictionnelle dans l'Union européenne sont fixées par ce règlement dit Bruxelles 1 bis qui a été adopté en décembre 2012 et qui était entré en vigueur le 10 janvier 2015. Alors, ce règlement succède en le modifiant légèrement au règlement précédent du 22 décembre 2000, que dans le jargon européen on appelle le Bruxelles 1, lequel s'est substitué à une ancienne convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Alors, ce règlement Bruxelles 1 bis peut être considéré comme constituant le droit commun de la compétence juridictionnelle internationale dans l'Union européenne et il couvre un très large domaine qui englobe toutes les matières civiles et commerciales.
Quelles sont les matières qu'il ne couvre pas ?
Alors, effectivement, il y a quelques matières qui ne couvrent pas et elles sont limitativement énumérées en son article 1.2. Alors, par exemple, sont exclus de ce règlement l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les faillites, la sécurité sociale, l'arbitrage, les obligations alimentaires et successions. Certaines de ces matières, d'ailleurs, font l'objet de règlements qui leur sont propres. Par exemple, en matière d'obligations alimentaires, c'est le règlement du 18 décembre 2008. Ou en matière successorale, c'est le règlement du 4 juillet 2012. Sont également exclus du champ d'application de ce règlement les contentieux relatifs au rapport des droits dans lequel intervient une autorité publique dans l'exercice de la puissance publique. Alors, ce règlement, il comporte deux grands chapitres. L'un qui porte sur les règles de compétence lorsque le litige présente des éléments d'extranéité. L'autre sur la reconnaissance et l'exécution d'un État membre des décisions rendues par une juridiction d'un autre État membre. Et je crois que vous allez consacrer un autre podcast à ce deuxième aspect du règlement.
Quelle est la méthode à suivre par les praticiens pour identifier les juridictions compétentes ?
Alors, le règlement Bruxelles 1 bis reprend une règle très classique en droit international et qui est assez simple à appliquer. Ce critère de compétence générale est déterminé par le territoire du domicile du défendeur. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont à traite, quelle que soit leur nationalité, et j'insiste, c'est très important, devant les juridictions de cet État. Mais à cette règle générale s'ajoutent d'autres règles qui sont dites supplétives, qui vont permettre aux demandeurs d'attraire l'adversaire devant une autre juridiction située dans un autre État membre.
Pouvez-vous justement nous en citer quelques-unes ?
Je vais vous citer quelques règles de compétence supplétives qui sont énoncées à l'article 7. Alors, par exemple, en matière contractuelle, le demandeur peut choisir la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. En matière délictuelle ou quasi-délictuelle, il peut saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Ou s'il s'agit d'une action fondée sur le droit de propriété, eh bien la juridiction du lieu où situé le bien litigieux au moment du litige. Alors, le règlement comprend aussi des dispositions spécifiques en matière d'assurance, de contrats conclus par les consommateurs ou des contrats de travail pour permettre, dans un but de protection de la partie faible, selon le cas à l'assuré, au consommateur de saisir la juridiction de l'État dans lequel il est domicilié et au salarié la juridiction de l'État où il accomplit habituellement son travail.
Pouvez-vous nous parler des compétences exclusives ?
Alors, les compétences exclusives, ce sont des compétences pour lesquelles une seule juridiction est désignée. Et le règlement en prévoit un certain nombre, en particulier en matière de droit immobilier, en matière de droit des sociétés, de droit des brevets. Et dans ces cas-là, et également des dispositions en cas de pluralité de défendeurs, de litispendance ou de connexité.
En cas de difficulté, quels sont les réflexes à adopter par les praticiens pour faire une bonne application des règles de compétence ?
Alors, il est important de préciser que les juges, mais aussi les avocats, bien sûr, doivent être particulièrement attentifs à deux hypothèses dans lesquelles ils sont tenus de relever d'office, le juge est tenu de relever d'office son incompétence. Alors, lorsqu'il y a une compétence exclusive d'une autre juridiction située dans un autre État européen, notamment, ou lorsque le défendeur n'est pas comparent et qu'il est attrait devant une juridiction dans l'État de lequel il n'est pas domicilié. Sauf, bien sûr, si la compétence dispose des coûts de disposition supplétive. Les juges doivent aussi veiller à s'assurer qu'il n'existe pas de litispendance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas saisis de demandes ayant le même objet et la même cause formées entre les mêmes parties devant une autre juridiction d'un État membre. En ce cas, la juridiction saisie en second doit d'office sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. On précisera enfin que plusieurs outils sont facilement accessibles et ont été mis en place pour aider les praticiens confrontés à des problèmes de compétences internationales dans l'espace européen. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je citerai les principaux. Tout d'abord, vous avez le portail e-justice qui est géré par la Commission européenne. Et c'est un site qui a vocation à devenir le guichet électronique unique dans le domaine du droit de l'Union en matière de justice. On y trouve notamment une fiche pratique très bien faite et des formulaires en ligne sur le règlement Bruxelles 1 bis. Ensuite, vous avez le site du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale qui facilite la mise en réseau des autorités judiciaires dans les pays de l'Union européenne en vue d'améliorer la coopération judiciaire. On peut ainsi y trouver différents guides pratiques, par exemple sur la compétence en droit du travail ou en droit de la consommation.
Avez-vous des exemples récents d'application par la première chambre civile du règlement Bruxelles 1 bis ?
Oui, alors le règlement Bruxelles 1 bis est un règlement auquel nous faisons souvent référence et que nous appliquons souvent. Alors, je vais vous citer deux exemples récents, l'un du 13 octobre 2020 et l'autre du 3 novembre 2021. Dans ces deux arrêts, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la mise en œuvre des articles 6 du règlement Bruxelles 1 et 8 du règlement Bruxelles 1 bis, qui permettent en cas de pluralité de défendeurs d'attraire l'un d'entre eux devant le tribunal du domicile d'un des autres si les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La phrase est un peu longue, mais c'est ainsi que est rédigé le règlement et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Et prochainement, la Cour de cassation aura à se prononcer après une question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne sur la compétence d'une juridiction française saisie par une société tchèque qui se plaint d'actes de dénigrement commis via Internet par une société hongroise pour connaître à la fois d'une action en cessation des actes de dénigrement et en réparation du préjudice causé par ceux-ci.
Merci Vincent Vigneault.
Merci à vous aussi. Vous savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de parler du droit de l'Union.
Après cette présentation des règles de compétence, nous vous invitons à écouter l'épisode 3 sur la question de la circulation des décisions du règlement Bruxelles 1 bis. Les podcasts Droit vers l'Europe du ministère de la Justice sont cofinancés par la Commission européenne. Retrouvez tous les épisodes sur justice.gouv.fr et sur les plateformes d'écoute.